Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Point d'orgue consacré aux merveilles de la musique sacrée et de la musique liturgique. Et après avoir parlé avec vous pendant 15 jours des merveilles de la musique contemporaine, je me suis dit qu'il fallait peut-être faire un petit coup de rétroviseur. Pourquoi ? Tout simplement pour voir ce qui a pu inspirer les compositeurs d'aujourd'hui, parce qu'il est vrai que les anciens avaient des choses à nous apprendre. Et je me suis dit, quitte à regarder en arrière, autant regarder le plus grand musicien de tous les temps, selon moi, Jean-Sébastien Bach. Bien entendu, quand on parle de musique sacrée, de musique liturgique, Jean-Sébastien Bach tient forcément une place à part dans le paysage musical sacré. Il est vrai qu'il s'agit d'une autre religion, le protestantisme, que la nôtre, mais ça ne veut pas dire que c'est inintéressant. Au contraire même, les protestants ont compris bien des choses avant les catholiques en termes de musique sacrée. Ça, c'est un grand débat sur lequel, bien entendu, on pourrait s'écharper des heures et des heures, mais de façon passionnante, je pense. Il y avait chez les protestants cette espèce de culte du beau, et notamment chez Jean-Sébastien Bach, qui était capable de faire des exercices d'une très grande pureté. Et quitte justement à parler d'exercice, je me suis dit qu'il fallait voir l'exercice dans lequel le maître, le cantor de Leipzig, excellait. Il s'agit de la cantate. Alors qu'est-ce que la cantate ? Je ne vais pas pouvoir vous en parler, il faudrait de longues heures pour cela. Je vais tâcher de vous donner, comme d'habitude, quelques petites clés de lecture, et ensuite on va s'attacher à l'une des cantates en particulier que vous pourrez découvrir ou redécouvrir. Alors une cantate, il s'agit d'une prière ou d'un poème chanté, ça vient de l'italien cantata qui veut dire chanter, et en fait c'est un genre musical qui s'est développé avec le chant d'une part, et d'autre part un accompagnement instrumental avec un chœur notamment, et il y a une distinction entre la cantate de chambre, qui est profane, et la cantate d'église, qui là est une cantate sacrée. C'est assez différent de l'opéra, parce que la cantate n'a pas d'aspect théâtral, ni dramatique, la priorité absolue, c'est celle de l'expression musicale. Et alors, pour vous illustrer tout cela, je me suis dit qu'il fallait qu'on se concentre sur l'une de ses grandes œuvres, la cantate 147. Alors, le chiffre ne vous dit peut-être rien, mais quand on parle, cantate de Bach, forcément, c'est un petit peu celle-ci que l'on vient chantonner dans sa tête, parce qu'elle est extrêmement célèbre, en tout cas son dernier mouvement, vous allez l'entendre tout à l'heure, facile à fredonner, extraordinaire musique, bien entendu. Alors avant d'entendre ce fameux dernier mouvement, eh bien on va analyser tout simplement le début de cette cantate et savoir ce qu'est le propre d'une cantate, comment elle est construite, et en particulier cette cantate 147 qui bénéficie de nombreux mouvements, tous plus extraordinaires les uns que les autres. Il s'ouvre sur une première partie instrumentale, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les cantates de Jean-Sébastien Bach, pour instituer le thème avec une fugue. Alors une fugue, qu'est-ce que c'est ? C'est l'installation d'un thème musical, que l'on appelle d'ailleurs le sujet, qui va se développer, qui va être repris à des hauteurs différentes, et le terme de fugue, fuga, fuite, c'est celui des thèmes qui se courent les uns après les autres, comme s'il y avait quelque chose d'éminemment joyeux. Peut-être vous souvenez-vous des interventions que j'avais eues en début d'année sur la musique baroque, et notamment de Philippe Bossan, qui disait que le naturel de la musique baroque, c'était cet art du mouvement, cet art de la séduction, cet art de la danse, et on le retrouve notamment chez Jean-Sébastien Bach. Alors, il est vrai que Philippe Bossan, quand il parle beaucoup de la musique baroque française, mais on retrouve tout à fait cette dimension musicale, dansante et joyeuse chez Jean-Sébastien Bach, notamment dans cette cantate-là. Vous avez notamment dans ce premier mouvement un mélisme, c'est-à-dire une mélodie sur une seule voyelle, sur une seule syllabe, sur le mot « Leben », qui est absolument extraordinaire, qui montre ce côté vivant, ce côté joyeux que l'on retrouve extraordinaire, en plus avec ce thème fugué qui donne à cette cantate, à ce début de cantate, quelque chose d'incroyablement vivant, extraordinaire. Alors en plus, ça part par les voix aiguës, c'est-à-dire qu'on a cet aspect très aérien, très léger, extraordinaire, et peu à peu les thèmes se poursuivent, et la fugue d'ailleurs se termine dans une troisième partie, avec cette fois-ci les basses qui commencent, donc comme si on partait du sol, de la terre, et qu'on voulait aller vers le ciel. Voici donc le début de cette cantate BWV 147 de Jean-Sébastien Bach. Thank you. après avoir entendu ce premier mouvement d'une véritable vitalité absolument extraordinaire, bien entendu, on ne peut que se dire que va-t-il se passer ensuite dans cette forme de cantate si particulière. Vous doutez bien que les offices à cette époque-là dans l'église Saint-Thomas de Leipzig revêtaient vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel puisque c'est toutes les semaines, voire même tous les jours que l'on chantait des cantates. Doutez-vous bien qu'il fallait un immense génie pour composer des choses comme ça et jamais redire la même chose. Alors la cantate, maintenant que nous en avons parlé, nous avons eu ce chœur d'entrée. Le chœur, c'est l'un des grands moments de la cantate. Ça prouve que le compositeur a envie de mettre à tel endroit un thème en évidence. C'est pour ça que tout le chœur s'y met, et en général aussi tout l'orchestre. C'est là où d'ailleurs vous avez les instruments brillants et les instruments moins brillants qui se mélangent, comme les trompettes et les violons, qui là aussi montrent qu'il y a une forme de solennité. Vous pouvez parfois même avoir des percussions, et tout le chœur dans son entier qui chante. En plus, le thème fugué se rapporte beaucoup au chœur, c'est-à-dire que ça donne là aussi un côté exubérant, un côté vraiment profond, parfois même virtuose, qui est le propre des chœurs des cantates et qui met en exergue les grands moments et le texte notamment. Et le texte, c'est l'autre grand exercice de la cantate, de la même manière qu'à l'opéra d'ailleurs, et notamment avec un autre extrait de cette cantate, qui est le récitatif. Alors c'est pas propre à cette cantate-ci, bien entendu, c'est dans toutes les cantates, et également, je vous le disais, dans l'opéra, le récitatif est un genre qui, là, s'inscrit dans la cantate, dans quelque chose de tout à fait différent que le chœur. L'exercice est le suivant, il s'agit tout simplement de faire avancer l'action. Et pour cela, nous avons un soliste seul qui presque parle. En fait, le but du récitatif, c'est d'avoir sur un rythme parlé, eh bien, l'action qui avance. Donc, le choriste, bien entendu, va chanter et la production instrumentale sera assez minimale. Donc, soit c'est un simple continuo, l'orgue, le clavecin, ou alors ce sont des cordes frottées qui sont assez calmes et qui permettent à l'action de se dérouler avec une certaine vitesse. C'est presque comme si on disait « il était une fois » et on déroulait l'histoire. Cela permet de s'apesantir un petit peu sur quelque chose qui est de l'ordre du mouvement et se dire que les choses importantes qui nécessitent que le cœur se déploie, par exemple sur un mot, comme je vous le disais tout à l'heure sur Leben, eh bien voilà, ne soit pas qu'il n'y ait pas de côté rallongé, qu'il n'y ait pas de côté presque ennuyeux, parce qu'il est vrai que dans une cantate qui parfois est assez courte, celle que je vous présente ne fait qu'une trentaine de minutes, on ne va pas l'écouter en entier naturellement, mais il y a toujours cette dimension de mouvement, ne l'oubliez pas. Et alors là, c'est le même procédé que pour l'opéra. Vous avez ces passages plus statiques où un soliste vient déclamer le reste du texte. Voici donc, pour que vous fassiez une idée, la suite de cette cantate BWV 147 avec le premier récitatif de cette magnifique cantate.
Schriftein allzu scharfes Urteil trifft.
extraordinaire récitatif donc qui permet là aussi de faire avancer l'action comme je vous le disais pour faire mettre en exergue le texte. Vous savez que les protestants étaient friands de cette forme de catéchèse par la musique et c'est pour ça que Bach écrivait des choses si subtiles, si extraordinaires qui nous permettent à la fois de mettre en musique des mots très importants, ça c'était par le biais du chœur, ou au contraire de faire avancer la catéchèse par le biais de ces récitatifs que vous venez d'entendre. Maintenant nous allons nous pencher vers un troisième exercice, si j'ose dire, de la cantate. Il s'agit de l'air aria en italien. L'air, c'est quelque chose de tout à fait spécial. En fait, c'est un petit peu sous la forme du récitatif. Peut-être que vous ne percevrez pas tout à fait la différence. C'est pour ça que je vous donne là aussi une petite clé de lecture. Un air, c'est une forme de récitatif, mais beaucoup plus mélodique. En fait, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus musical, vous allez l'entendre immédiatement, moins austère presque. Dans l'aria que vous allez entendre à présent, il y a même un dialogue entre la voix et les instruments. Ici, notamment la basse continue, qui continue son travail presque implacable, mais avec la légèreté de Jean-Sébastien Bach. Et à côté, le hautbois qui, lui, va apporter quelque chose, là aussi, de plus dansant, pour rester dans la mouvance première de ce que vous avez pu entendre et qui reste tout à fait extraordinaire. Voilà donc cette aria avec là aussi la voix, il s'agit d'un seul soliste, c'est pour ça que ça ressemble un petit peu au récitatif, et vous allez voir comment les choses se mettent en place. Alors un air c'est beaucoup plus mélodieux, je vous le disais, il y a même des arias qui sont en dehors des cantates, il faut le savoir, c'est également quelque chose que l'on retrouve dans les opéras à l'époque et qui a perduré jusqu'au 19e siècle. Voici donc l'aria de cette cantate 147 de Jean-Sébastien Bach, vous allez l'entendre, là aussi la musique reste extrêmement subtile.
Thank you.
Voilà pour ce dernier période, pour cette dernière période musicale, si j'ose dire, de la cantate BWV 147. Vous avez entendu les trois moments forts musicaux de ce que formait une cantate, le chœur, le récitatif et l'aria, qui sont les trois mouvements qui nous permettent de rentrer dans l'intimité d'une cantate. Alors quand je vous disais qu'il y avait cette espèce de volonté du mouvement, ça c'est le propre de la musique baroque, cela vient se mêler à quelque chose de la catéchèse. C'est pour ça que je vous parle de ce genre de musique-là bien vivant, bien vivace, et qu'il faudrait remettre au centre de nos églises. On est loin, très loin à mon sens, du concert, on est dans une véritable catéchèse, et en plus d'une catéchèse belle, c'est-à-dire celle qui permet de voyager vers la vérité, vers le beau, comme le disait saint Thomas d'Aquin en reprenant les travaux d'Aristote. Et c'est là que je me dis qu'il faut à tout prix cultiver ce genre de musique-là. Vous connaissez mes marottes, pour ceux qui me suivent déjà depuis 2 ans. Il est vrai que je pense que c'est l'un des moyens de conversion qui fonctionne. La musique, le beau, c'est un beau véhicule. Mais on ne va pas se quitter avec un simple, si j'ose dire, aria. Il convient d'écouter un chœur, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis. Il s'agit du grand tube de cette cantate 147, le dernier mouvement, Jesus bleibet meine Freude. Là aussi, quelque chose d'assez extraordinaire. C'est une partition tellement célèbre qu'elle a été prise, reprise, rediffusée, reprise par le compositeur lui-même, Jean-Sébastien Bach, qui en a fait des transcriptions pour orgue seul, également pour d'autres petits emprunts qui ont été effectués dans ses musiques. Ça a inspiré beaucoup de compositeurs avec des reprises, notamment par exemple par la musique française au XXe siècle avec Maurice Duruflé. Donc vous doutez bien que là-dedans, il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'intemporel qui reste, qui persiste. Pourquoi est-ce que ce choral est resté extrêmement célèbre et pourquoi est-ce que le choral c'est si extraordinaire? C'est aussi une forme que l'on retrouve dans les cantates, le choral. Et c'est un exercice là aussi typique du protestantisme de cette époque-là, Jean-Sébastien Bach a été le chantre et l'un des plus grands réalisateurs. Il s'agit tout simplement d'un thème musical qui en général est extrêmement simple et qui intervient par coup de séquence. En fait, il s'agit tout simplement d'exercer la mémoire des gens qui participaient à l'office et de pouvoir leur dire, voilà, vous avez ce thème musical et en fait finalement chantez-le avec nous. Et il y a quelque chose d'assez prenant et en même temps de terriblement humain, parce qu'il y a une forme d'accessibilité. C'est là aussi où on se dit que la musique savante, c'est également de la musique populaire. En tout cas, c'est particulièrement frappant chez Jean-Sébastien Bach, où là aussi, vous allez voir, vous allez pouvoir fredonner l'air. Alors peut-être que si vous ne pouvez pas le chanter en même temps que tout le monde, c'est parce que vous ne parlez pas allemand, comme moi d'ailleurs, mais il est vrai que cet air rentre tout de suite dans la tête et c'est facile à chantonner. Et c'est là où on se dit finalement que c'est ce genre de répertoire, là encore, qu'il faut défendre, parce qu'on est capable de faire du beau avec du simple. Voici donc cette extraordinaire Jesus bleibet meine Freude, qui vient conclure cette magnifique cantate 147, un bout de poésie musicale absolument extraordinaire qui laisse se dire que dans cette joie contenue de Jean-Sébastien Bach, il y a tout le sens de la musique, un véritable chef-d'œuvre.
Thank you.
Voilà pour cette cantate absolument extraordinaire. Ne me dites pas que vous avez reconnu ce thème célébrissime de Jesus bleibt meine Freude, l'un des tubes de Jean-Sébastien Bach, l'un des tubes d'ailleurs de la musique occidentale, un chef-d'œuvre que je vous invite à découvrir, à redécouvrir. Vous avez entendu 4 des 10 mouvements de cette extraordinaire cantate. Je vous invite à la découvrir en entier, bien entendu, au cours de cette année liturgique. Eh bien, je vous en ferai écouter d'autres parce qu'il est vrai que ça nourrit effectivement la vie d'un chrétien, et la vie liturgique est peuplée de ces espèces de clins d'œil de Jean-Sébastien Bach, tantôt charmant, tantôt enjoué, tantôt triste. C'est là le génie de ce compositeur. Voilà donc pour ce numéro de Point d'Orgue. Je suis très heureux d'avoir pu vous montrer, vous faire écouter cette cantate absolument extraordinaire. Il me reste à remercier Mathieu Duboc pour la réalisation de cet épisode, et je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine pour un nouveau numéro consacré aux merveilles de la musique sacrée. D'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt.